LSD, la série documentaire, un podcast France Culture.
La conduite du régime irakien est une menace pour l'autorité des Nations Unies
and a threat to peace.
Et une menace pour la paix.
George W. Bush, le 12 septembre 2002.
Iraq has answered a decade of UN demands with a decade of defiance.
L'Irak a répondu à une décennie de demandes de l'ONU par une décennie de mépris.
If the Iraqi regime wishes peace,
si le régime irakien souhaite la paix,
it will immediately
il révélera,
and unconditionally
retirera, ou détruira immédiatement et sans condition toutes ses armes de destruction massive, tous ses missiles longue portée
and all related
et tous les matériels les accompagnant. Si le régime irakien souhaite la paix, il mettra immédiatement fin à tout soutien au terrorisme et agira pour le supprimer. Comme tous les pays doivent le faire conformément aux résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU. Si le régime irakien souhaite la paix, il cessera de persécuter sa population civile, les chiites, sunnites, kurdes, turkmènes et les autres, comme le requièrent les résolutions du Conseil de sécurité. Si le régime irakien souhaite la paix, il relâchera ou rendra compte des soldats de la guerre du Golfe dont le sort est toujours inconnu.
Hisser les drapeaux blancs, comment faire la paix? Marie Chartron, Franck Lilin. En février 2022, les troupes russes attaquaient l'Ukraine, poursuivant la guerre débutée en 2014. Une guerre dans la longue histoire des guerres passées et présentes. Celle qui nous touche et dont on se souvient, celle qui nous indiffère par désintérêt ou par ignorance. Une guerre que la couverture médiatique au jour le jour nous a permis de suivre par fragments sur des cartes, en chiffres et en images, sur le fil des réseaux sociaux. Qui nous apprend des noms, des mots, des lieux. Une guerre qui a des visages. Et dans tous les cas, une guerre ressentie en Europe comme le surgissement d'une violence d'un autre temps, la rupture d'un pacte de paix que nous avions peut-être implicitement considéré comme éternel et qui nous a incité à reparcourir l'histoire en quête de ce qui est bien moins tangible que la menace, les missiles aveugles ou les drones. La paix. Ou tout au moins, la paix comme horizon. Comment s'organise-t-elle? S'impose-t-elle? Comment l'espère-t-on? La négocie-t-on? La signe-t-on? Sans nous interdire de grandes enjambées géographiques et chronologiques, nous nous sommes plongés dans des textes, mais surtout dans des archives audiovisuelles, celles de Lina et celles glanées ailleurs, avec une nuée de questions, qui n'auront certainement pas de réponse au terme de cette série, et la curiosité de découvrir ce que les voix du passé pouvaient nous raconter sur cet éternel chantier de paix. Aujourd'hui, vers le cessez-le-feu, ou comment on ne cesse jamais de parler de paix, même quand on s'apprête à entrer en guerre. En archives, et avec les historiens Nicolas Offenstadt et Pierre Grosser.
Je tiens à souligner que je n'ai pas abandonné l'idée d'une issue pacifique. Ce n'est pas trop tard, mais maintenant, plus que jamais, le choix de la paix ou de la guerre appartient à Saddam Hussein.
George Bush Sr., le 9 janvier 1991.
I am discouraged. Je suis découragé. J'ai regardé presque toute la conférence de presse de Tariq Aziz et il n'y avait pas un seul mot, pas une phrase sur leur volonté de quitter le Koweït.
To get out of Kuwait. And so
Alors, il faut que je le dise, tout cela n'est pas très encourageant. Je l'ai dit à nos partenaires et je vais encore leur dire, il faut continuer à essayer. Mais ce qui s'est passé, c'est vraiment un mauvais geste, c'est une vraie rebuffade.
En cas de conflit, votre sort dépendra de vos actions. Ne détruisez pas les puits de pétrole, une source de richesse qui appartient au peuple irakien.
George W. Bush, le 18 mars 2003.
Les États-Unis, avec d'autres pays, travailleront à faire progresser la liberté et la paix dans cette région. Notre objectif ne sera pas atteint du jour au lendemain. Il faudra du temps. Le pouvoir et l'appel de la liberté humaine se font entendre dans chaque vie et dans chaque pays. Et le plus grand pouvoir de la liberté est de vaincre la haine et la violence et d'orienter la créativité des hommes et des femmes vers la poursuite de la paix. C'est l'avenir que nous choisissons. Bonne nuit. Et que Dieu continue de bénir l'Amérique.
Il faut souvent légitimer la guerre. Et donc ça, c'est quelque chose qui est très important, c'est que très souvent, même des régimes très autoritaires, même des régimes qui ont le plein pouvoir, même des régimes qui ont la capacité à imposer à leur peuple de nombreuses décisions, il y a cette idée qu'il faut se justifier.
Nicolas Offenstadt.
Quitte évidemment à construire des fables et des récits totalement fictifs de la raison. Mais ça, c'est très frappant. Alors pourquoi ? C'est ça qui est intéressant. En fait, parce que dans l'Occident, tous les cas principalement, il y a une vision de la guerre et de la paix qui est ancienne, qui remonte à l'Antiquité, qui a été retravaillée au Moyen-Âge, qui a été affinée au Moyen-Âge et à l'époque moderne. C'est la notion de guerre juste qui est centrale. Elle doit être juste, donc ça veut dire qu'elle doit répondre à un certain nombre de critères. Et généralement, parmi ces critères, il y a l'idée de se défendre. Et donc, si elle est juste, il faut vous expliquer pourquoi elle est juste. Et donc, évidemment, en face de vous, vous avez quelqu'un qui, lui, mène des actions ou des causes qui sont injustes. Et c'est pour ça que vous êtes légitime à faire la guerre. Donc la notion de guerre juste, elle est centrale. Et d'ailleurs, elle va être utilisée par Bush, hein. C'est des termes qu'il va employer lui-même au moment de la guerre d'Irak. Et cette notion de guerre juste, elle imprègne aussi beaucoup l'idéologie américaine de la guerre. Les penseurs américains de la guerre vont la développer. Donc depuis Cicéron, en passant par le Moyen-Âge jusqu'à aujourd'hui, la notion existe, elle a été raffinée. Elle a été adaptée aux différents contextes. Elle a été enrichie, évidemment, avec les nouvelles armes, avec les nouvelles manières de combattre. Hein. Est-ce qu'il y avait encore une guerre juste au moment du nucléaire ? C'est des questions qui ont été posées par des théologiens. Mais c'est ça. Et donc, quand vous voulez mener une guerre juste, il faut évidemment expliquer. Il faut légitimer. Pour être le bon souverain, le bon dirigeant, celui qui mène la bonne guerre, ben, il faut l'expliquer. D'où ces discours sans fin qui explique que l'adversaire lui-même a des comportements et des actions injustes et que si vous allez mener la guerre, c'est parce que vous, votre cause, et la manière dont vous allez le faire, la manière dont vous allez intervenir est juste.
En fin de compte, si l'on compare la carte moderne de la partie européenne de notre pays avec la carte validée par le fameux traité de paix de Brest, il y a peu de différence. Il est frappant de constater que la frontière occidentale de la Russie actuelle coïncide presque littéralement avec la ligne de démarcation que les bolcheviks ont lâchement accepté en 1918, après avoir été confronté à l'ultimatum allemand. De fait, la Russie a été à nouveau repoussée dans les limites de la paix obscène, bien des années plus tard, sans perdre de guerre, sans passer par les affres d'une révolution. Il a suffi d'une espèce de perestroïka, d'une vague glasnost, pour que les coutures de l'Empire soviétique en patchwork craquent de toutes parts. La vulnérabilité était donc fatalement inscrite dans le système. Et ensuite, certainement pas le silence. Beaucoup de géopolitique à venir, pratique et appliquée, et même peut-être de contact. Comment pourrait-il en être autrement, alors que la Russie se sent à l'étroit dans ses frontières obscènes, qu'elle y est mal à l'aise et s'y ennuie, et qu'elle ne peut envisager d'y rester ? Nous sommes pour la paix. Bien sûr que nous le sommes. Mais pas pour une paix obscène. Pour une paix juste. Vladislav Surkov, ancien conseiller de Vladimir Poutine, le 15 février 2022.
C'est à la fin du 19e siècle,
Pierre Grosser.
Il commence à y avoir des associations de juristes internationaux. Vous avez des codifications extrêmement nombreuses. Et donc, on dit, voilà, qu'est-ce que c'est qu'une guerre et qu'est-ce que c'est que, finalement, une guerre, entre guillemets, civilisée. Entre pays civilisés, on parlait comme ça à l'époque, ce qui excluait évidemment un certain nombre de pays, voire de régions entières. Et donc, on a déterminé que, encore une fois, il fallait donc une déclaration de guerre. Et la période de guerre était terminée par un traité de paix. Ça, c'est quelque chose qui a commencé à décliner un peu après le traité de Versailles, parce qu'on a commencé à considérer qu'il y avait des gens qui faisaient des crimes contre la paix. La notion de crime contre la paix, hein, ce que les Allemands auraient fait à ce moment-là, c'est universel. C'est pas le fait de déclarer la guerre d'un État à un autre. C'est d'ailleurs contre ça qu'un certain nombre de juristes allemands se sont élevés en disant non, la Première Guerre mondiale et toutes les guerres que nous faisons sont des guerres interétatiques, tout à fait normales. La guerre est une activité normale d'État souverain. Et progressivement à partir des années 20, 1920, on a pensé que l'activité normale c'était la paix, et celui qui violait la paix par une guerre qui pratiquement nécessairement était une guerre d'agression, devait être un paria du système international. Après les déclarations de guerre, par exemple le cas des États-Unis, les dernières guerres que les États-Unis ont déclarées, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas fait de guerre depuis, vous le savez bien, c'est en 1942, la déclaration de guerre, la Roumanie, la Hongrie, enfin en gros la Bulgarie, les alliés de l'Allemagne nazie. Et depuis, les Américains n'ont jamais déclaré formellement de guerre. Nous, nous avons fait essentiellement, les Français ou les Britanniques, plutôt des guerres de décolonisation. Donc là encore, évidemment, il n'y avait pas d'entité juridique en face, il n'y avait pas besoin de déclaration de guerre. Et l'évolution que l'on voit depuis longtemps, et notamment avec la guerre contre le terrorisme ou autre, ça a été de considérer que c'était essentiellement des opérations de police. Mais même, par exemple, les Américains qui interviennent dans la guerre de Corée après l'invasion de la Corée du Sud par la Corée du Nord en juin 1950, comme c'était une opération onusienne contre quelqu'un qui avait un pays qui avait violé finalement cet état de paix, c'était une opération de police des Nations Unies. Et donc, ce n'est pas, encore une fois, il n'y avait pas besoin de déclaration de guerre, puisqu'il y avait le Conseil de sécurité qui avait dit qu'il y avait un état agresseur, et donc on intervient. La guerre en Irak, de l'Irak qui envahit le Koweït, pareil, un état agresseur, Conseil de sécurité des Nations Unies, opération de police. Donc, il n'y a pas eu de déclaration de guerre des Américains ou de la coalition à l'égard de l'Irak qui avait envahi le Koweït.
Je ne me livre sur ce sujet à aucun pronostic.
Michel Rocard, 1991.
Je m'attache seulement à préparer au mieux toutes les hypothèses, de sorte que le président de la République puisse à tout moment, dans la partie très délicate qu'il conduit, miser sur un dispositif diplomatique, militaire, économique et social convenable, à la hauteur de tout événement. Ceux qui ne craindraient pas cette échéance serait irresponsable, autant que ceux qui, parce qu'ils la craignent, seraient prêts à tous les abandons. Il est des situations où prétendre sauver la paix au prix d'un abandon conduit généralement à cumuler et la honte et la guerre malgré tout.
On annonce à la fois la mobilisation générale en Allemagne et l'entrée des troupes allemandes en Tchécoslovaquie pour le mercredi 28 à 14h.
Georges Bonnet, ministre des Affaires étrangères, le 1er octobre 1938.
Cette fois, la guerre paraît inévitable. Il semble que tous les moyens de l'empêcher soient épuisés. Les quatre chefs du gouvernement ont signé les accords de Munich sur la base des propositions de Londres, c'est-à-dire sur la base du rapport de Lord Brönnimann. Les districts à majorité allemande sont attribués à l'Allemagne et les quatre puissances doivent donner leur garantie aux frontières nouvelles de la Tchécoslovaquie. Citoyens, n'en doutons pas, les accords de Munich ont maintenu la paix.
Nous, on sait ce qui s'est passé après. On sait ce qui s'est passé après. Or, en septembre 38, on ne savait pas. Enfin, c'était inimaginable qu'il y ait une guerre mondiale de cette ampleur après, qu'il y ait un holocauste comme, qu'il y ait 6 millions de juifs qui soient ou massacrés ou envoyés dans des camps de concentration. C'était quand même totalement au-delà d'imaginable. Même après, d'ailleurs, on a eu du mal à concevoir que ça puisse être fait. Et que d'ailleurs, je le dis souvent et ça plaît pas toujours, que la personne qui massacrait par millions, c'était l'Union soviétique. Hitler avait tué relativement peu de monde. même les camps de concentration et d'internement, qui n'étaient pas du tout spécifiquement pour les Juifs à l'époque, avaient tendance à se vider en 36-37. Voilà. Mais à partir du moment où on n'a pas vu que quelqu'un qu'on pensait être à peu près raisonnable, avec qui on pouvait négocier, etc., pouvait être un monstre, ça fait qu'aujourd'hui, et depuis en fait 1940, hein, tout dictateur, on parlait tout à l'heure de Saddam Hussein, pourrait être, je veux dire, potentiellement quelqu'un avec des ambitions illimitées si on le laisse faire. Et aujourd'hui, si vous voulez, c'est un vrai débat autour de possibilité de négocier avec la Russie. C'est qu'on peut considérer, et évidemment certains considèrent ça, que tant qu'il y a Poutine au pouvoir et en gros ce régime avec l'entourage de Poutine, eh bien ça sera un danger. C'est même pas la peine de faire un accord avec lui. De toute façon, il repartira en guerre, il voudra refaire un empire, il voudra éliminer l'Ukraine, etc., etc. Et c'est pour ça que entre ceux qui attendent qu'il meure, ceux qui espèrent un coup d'État ou je sais pas quoi, et tout ça avec toujours Hitler en tête, j'allais dire. Hein. Tant qu'il y aurait Hitler, ça serait une menace. Donc vraiment, ça fait partie des références universelles. C'est en fait faire des concessions à un dictateur expansionniste, en pensant que cela va éviter la guerre, et en réalité, comme on paraît faible, ça donne plutôt, ce qu'on disait souvent, l'appétit au crocodile, hein, plus il mange, plus il a faim, de finalement aller encore plus loin dans la provocation et bien entendu dans l'expansion.
BBC, le 13 octobre 1940.
This is the BBC Home Service. Hello, children.
Bonjour, chers enfants, où que vous soyez.
This is one of the most important days.
Voici venu l'un des plus grands jours dans l'histoire de l'émission Children's Hour.
Today, Princess Elizabeth is herself.
Aujourd'hui, la princesse Elizabeth est venue en personne pour s'adresser aux enfants de l'Empire, qu'ils soient au Royaume-Uni ou à l'étranger.
Her Royal Highness, Princess Elizabeth.
Son Altesse Royale, la princesse Elizabeth.
In wishing you all good evening.
En vous souhaitant à tous bonsoir. J'ai le sentiment de m'adresser à des amis et des compagnons avec qui nous avons partagé, ma sœur et moi, la joie de nombreuses Children's Hour. Des milliers d'entre vous ont dû quitter leur foyer et être séparés de leur père et de leur mère. Ma sœur, Margaret Rose, et moi-même sommes de tout cœur avec vous. Car nous savons par expérience ce que signifie être loin de ceux qui nous sont le plus chers.
To you, living in new surroundings, we send a message of true sympathy.
À vous qui vivez dans un nouvel environnement, nous adressons un message de sympathie et tenons à remercier les personnes aimables qui vous ont accueillis dans leur maison à la campagne.
Before I finish, I can truthfully say to you all.
Je peux vous dire en toute sincérité que nous, les enfants restés à la maison, sommes pleins d'entrain et de courage. Nous faisons tout notre possible pour aider nos vaillants marins, soldats et aviateurs. Tout comme nous essayons de prendre notre part de danger et de tristesse dans cette guerre. Nous savons, chacun d'entre nous sait, qu'à la fin tout ira bien, car Dieu prendra soin de nous et nous donnera la victoire et la paix. Et quand la paix viendra, rappelez-vous, ce sera à nous, les enfants d'aujourd'hui, de faire du monde de demain un endroit meilleur et plus heureux. Ma sœur est à mes côtés et nous allons toutes les deux vous dire bonne nuit. Allez, Margaret. Bonne nuit, les enfants.
Good night,
bonne nuit
and good luck to you all.
Et bonne chance à vous tous.
October 21, 1940, Winston Churchill.
Français. C'est moi, Churchill, qui vous parle. Pendant plus de 30 ans, dans la paix comme dans la guerre, j'ai marché avec vous et je marche encore avec vous aujourd'hui sur la vieille route. Cette nuit, je m'adresse à vous dans tous vos foyers partout où le sort vous a conduit. Et je répète la prière qui entourait vos louis d'or. Dieu protège la France. Ici, chez nous, en Angleterre, sous le feu du Boche, nous n'oublions jamais quel lien et quelle attache nous unissent à la France. Nous continuons à lutter de pied ferme et d'un cœur solide pour que la liberté soit rétablie en Europe, pour que les braves gens de tous les pays soient traités décemment et pour amener ainsi le triomphe de la cause qui nous a fait ensemble tirer l'épée. Allons, bonne nuit. Dormez bien, rassemblez vos forces pour l'aube, car l'aube viendra, elle se lèvera brillante pour les braves, douce pour les fidèles qui auront souffert, glorieuse sur les tombeaux des héros. Vive la France, et vive aussi le soulèvement des braves gens de tous les pays qui cherchent leur patrimoine perdu et marchent vers les temps meilleurs.
La paix, un petit point à l'horizon. Mais alors même que les conflits sont en cours, des voix s'élèvent pour résister et affûtent leurs armes hors des réseaux diplomatiques. Armes satiriques, comme lorsqu'Aristophane met en scène la grève du sexe des femmes grecques pour faire cesser la guerre du Péloponnèse en -411 dans sa pièce Lysistrata. Armes individuelles, une grève de la faim, un geste désespéré, ou collectives, des actions publiques, des manifestations.
Déjà, avant les guerres coloniales, il y a deux temps forts de la mobilisation des sociétés civiles, des citoyens en Europe, en Amérique et ailleurs. C'est la fin du 19e siècle, notamment après les guerres civiles américaines, la guerre franco-allemande, va se développer un mouvement pour la paix qui va commencer à se structurer de plus en plus avec deux pôles. Un pôle, on peut dire, plutôt lié aux élites traditionnelles, donc qui est centré sur l'organisation de la paix. Et un pôle socialiste qui associe la lutte contre la guerre avec la lutte pour l'émancipation, contre l'oppression et contre l'impérialisme. Et déjà avant 1914, il y a de grandes manifestations socialistes, notamment contre la guerre, contre les lois militaires. Donc cette mobilisation contre la guerre, elle est particulièrement forte avant 14, ça n'aura pas d'effet, on le sait direct. Donc ça, c'est un premier moment déjà où on voit vraiment... Et là où ça va devenir véritablement quelque chose de central dans toute l'Europe, c'est après 14-18, 10 millions de morts, des blessés là aussi par millions, des veuves, des orphelins, donc des sociétés partout abîmées, détruites par la guerre. Et jamais, sans doute, l'antimilitarisme et le pacifisme n'ont été aussi forts que dans les années 20. Et donc partout en Europe, en Amérique, se créent de nouvelles sociétés pour la paix, certaines très radicales qui ne veulent plus par exemple du service militaire, alors que c'était des mouvements très marginaux avant 1914. Mais là, vous allez voir monter des mouvements pour l'objection de conscience, c'est-à-dire le refus de participation à toute guerre. Et donc se développe tout un ensemble de luttes et de mobilisations qui sont colossales. Immenses meetings contre la guerre, manifestations contre la guerre, procès d'objecteurs de conscience qui servent à mobiliser les foules, notamment au début des années 30 en France. Il y a de jeunes pasteurs, des protestants, qui sont jugés parce qu'ils refusent toute forme de service militaire. Il y a des anciens combattants qui renvoient leurs fascicules de mobilisation. Il y a des campagnes de renvoi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire « je ne viendrai pas pour la prochaine ». Vous renvoyez votre fascicule, donc ça veut dire qu'on ne pourra plus vous toucher, donc vous ne pourrez plus être conscrit.
I don't want to play that game.
Je ne veux pas jouer ce jeu. Notre pays a été fondé sur un principe démocratique de base, bien plus sacré que le traité des bonnes manières à table.
Howard Zinn, 1968.
Le principe que beaucoup d'entre nous ont oublié, mais que Jefferson a mis dans la Déclaration d'indépendance, c'est que le gouvernement et les lois ne sont pas sacrés, qu'ils sont là pour répondre à certains buts ultimes, la liberté, la poursuite du bonheur. Et quand ces buts sont détruits, Nous avons le droit de désobéir. Alors je voudrais dire à tous ceux qui m'écoutent, si votre conscience vous dit qu'il est injuste de traverser l'océan pour faire la guerre au peuple vietnamien, si vous refusez de vous battre dans cette guerre, je vous soutiens. Et je vous admire tout comme j'admire Ersa Kitt et le docteur Benjamin Spock et tous les gens qui refusent de jouer le jeu du silence et du meurtre.
Vietnam, un bonze bouddhiste s'est immolé par le feu hier à l'aube dans un hameau à une trentaine de kilomètres de Saïgon.
On ne connaît pas le nom de ce bonze ni les raisons de son sacrifice, mais il faut rappeler que le bonze suprême du bouddhisme unifié avait fait distribuer un message dans toutes les pagodes il y a quelques jours. Pour obtenir la paix, disait-il, les bouddhistes n'hésiteront pas à recourir au sacrifice suprême. Il y a aussi de violents combats tout près de Saïgon. Les accrochages se déroulent selon un arc de cercle qui va de la frontière cambodgienne jusqu'à la côte est. Le commandement américain annonce déjà que 115 communistes ont été tués, 4 hélicoptères américains ont été touchés et 2 autres abattus. Il y a également des morts dans le camp américain. Enfin, il faut rappeler qu'à Paris, ce matin à 10h30, 4e séance plénière de la conférence élargie de l'avenue Kléber.
Saïgon. Saïgon. Nous y étions hier encore. Nous y sommes arrivés, nous avons survolé la ville pendant un quart d'heure. Le temps de laisser les bombardiers décoller vers le nord Vietnam ou les maquis Viet Cong. Pourtant, dans ce pays où nous avons vécu les 4 derniers jours, on peut rapporter des images de calme. La rivière de Hue s'appelle toujours la rivière des parfums. Mais...
5 colonnes à la une. Le 3 juin 1966.
Quand nous sommes entrés dans Hue, une bonzesse venait de se faire brûler vive pour protester contre l'attaque des pagodes de Da Nang, 200 morts, par les marines du général Ki. C'est là qu'elle s'est brûlée, à 4 heures du matin. Toute la journée, la foule est venue prier. La mort dans l'indifférence générale, mais quand même, parce que celui-là qui est indifférent aujourd'hui peut demain s'arroser des sens et faire comme les autres.
Quand on parle de lutte pour la paix, comme c'est le cas lors des luttes anticolonialistes, que ce soit le Vietnam, l'Algérie ou d'autres combats, il faut faire attention à bien distinguer de quoi on parle. Il y a toujours cette idée, qui s'est développée en particulier après la Première Guerre mondiale dans les années 20, de la lutte pour la paix comme un idéal profond général. C'est-à-dire, vous êtes contre la guerre en général. Donc vous pouvez être aussi contre les guerres révolutionnaires. Hein, c'est le pacifisme intégral, vous êtes contre tout exercice de la violence. Il y a toute une déclinaison des gens qui luttent pour la paix en disant « aucune guerre n'est valable », c'est ce qu'on appelle le pacifisme absolu, surtout avec l'existence du nucléaire, plus rien n'est légitime. Et on peut rajouter à cela aussi, parfois chez ces militants de la paix, l'idée que toute forme de violence sociale, les violences intérieures, les violences policières, les violences conjugales, toute forme de violence finalement doit être comprise dans un tout, qui est la lutte contre toutes les formes d'oppression physique par la guerre, par la violence. Donc il faut lutter contre toutes les formes d'oppression.
Interactualité, le 8 mai 1971.
Ils étaient plusieurs milliers, la plupart des jeunes gens cet après-midi entre la République et la Nation, qui ont pris part à la manifestation de soutien au peuple indochinois en lutte contre les forces américaines. C'est là le thème de cette démonstration en faveur de la paix qui a réuni au moins 30 000 personnes. La manifestation a duré 3 heures environ, de 15h à 18h, heure à laquelle les organisateurs ont ordonné la dispersion après la lecture d'un message qui sera adressé aux parlementaires américains, un message réclamant le retrait des forces américaines de l'Indochine et qu'a lu Michel Piccoli.
Ce retrait est indispensable pour que les peuples vietnamiens, Lao et Khmer, puissent librement exercer leur droit à l'indépendance. Le légitime combat des peuples d'Indochine, dont l'efficacité vient d'être confirmée par les échecs de l'agression au Laos, le développement dans le monde des actions de soutien et de solidarité, notamment en avril et en mai 1971, imposeront en Indochine l'indépendance sans laquelle il n'est point de paix possible.
Les actualités françaises, le 18 avril 1967.
50 à 100 000 manifestants se sont retrouvés devant le Pentagone face à 11 000 hommes de troupes.
Protestation contre la guerre au Vietnam, à laquelle d'autres manifestations devaient faire écho un peu partout dans le monde. À Tokyo, à Paris, à Berlin, à Amsterdam, à Londres où l'ambassade des États-Unis était solidement gardée. Pour la première fois s'est déroulée aux États-Unis une marche de protestation massive contre la guerre au Vietnam, à laquelle s'étaient jointes les organisations antiségrégationnistes noires. À Chicago, à Washington et surtout à New York, les pacifistes sont descendus dans la rue en arborant le drapeau du Viet Cong. Plusieurs jeunes Américains ont brûlé leur livret militaire devant quelques 150 000 manifestants qui ont entendu ensuite plusieurs orateurs, dont le pasteur Martin Luther King, prix Nobel de la paix, réclamer devant le siège des Nations Unies l'arrêt des bombardements sur le Nord Vietnam et l'ouverture immédiate de négociations.
Et puis attention, il y a aussi des militants de la paix qui luttent contre une guerre qui est considérée comme injuste, comme illégitime, et notamment c'est le cas des guerres coloniales, qui suscitent tout un militantisme de gens qui par ailleurs ne peuvent être pas du tout hostiles à certains types de guerres. Un cas très classique, hein, c'est les communistes, hein, donc ils vont jouer un rôle important dans les luttes anticoloniales, qui par ailleurs ont soutenu l'armée rouge et donc ont soutenu des guerres révolutionnaires quand elles leur apparaissaient légitimes. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir que le monde communiste a repris à son compte la théologie chrétienne des guerres justes et injustes, mais les a adaptées au contexte révolutionnaire. Donc il y a les guerres injustes et les guerres impérialistes, les guerres coloniales, et il y a les guerres justes, hein, c'est celles qui sont menées par la classe ouvrière contre ses oppresseurs. Donc vous voyez, quand on dit lutter pour la paix, il faut faire attention, ça peut être une lutte générale, une idéologie fondamentale, qu'on appelle parfois le pacifisme intégral, ou le pacifiste tout court, il y a des tas de typologies. Et puis, la lutte pour la paix dans une guerre particulière qu'on dénonce, non pas comme une violence en soi, même si on peut dénoncer la violence, mais comme une guerre particulière qui est vraiment illégitime et injuste, et c'est aussi souvent le cas. Donc dans les luttes anticoloniales, il y a les deux. Il y a des gens qui luttent parce que ce sont des guerres impérialistes, qui ne sont pas forcément contre la violence révolutionnaire, et d'autres qui luttent parce que ce sont des guerres en soi. Donc il faut bien distinguer les deux aspects.
Les manifestations de demain pour la paix, contre la guerre, vont donner lieu en tout cas à des apparentements terribles. Jérôme Dorville, il faut dire qu'au-delà des pacifistes traditionnels, ces clivages traversent largement aussi bien la gauche que la droite.
France Inter, le 11 janvier 1991.
Oui, drôle de coalition que celle qui rassemble l'extrême droite, l'extrême gauche, des socialistes, des anciens ministres de droite, le Parti communiste, les écolos, un évêque, des comédiens, des intellectuels de gauche ou de droite, un front du refus, unis sur un mot d'ordre, non à la guerre, non à la présence française dans le Golfe. On peut cependant distinguer dans cet agglomérat hétéroclite trois courants. D'abord, le Front National. Il n'appelle pas à manifester demain, même si quelques-uns de ses dissidents se mêleront au défilé. Jean-Marie Le Pen, lui, interviendra la semaine prochaine pour une déclaration solennelle. Deuxième courant pacifiste, le Parti communiste et ses nombreux satellites. Le PC jette toutes ses forces dans cette bataille, 12 pages ce matin dans l'Humanité, 75 associations mobilisées pour les manifestations de demain, l'évêque d'Evreux, Monseigneur Gaillot, le chanteur Renaud, Gisèle Halimi, Gilles Perrault, mais aussi Les Verts et toute une kyrielle de groupuscules d'extrême-gauche joueront pour l'occasion les compagnons de route du parti. Enfin, troisième nébuleuse pacifiste, ceux que l'on retrouve dans l'appel des 30. Ici, on pioche des socialistes proches de Chevènement, des anciens ministres, Claude Chesson et Michel Jobert, les communistes refondateurs, Fitterman, Ralit, Le Porse et les comédiens, écrivains, scientifiques et intellectuels habitués des pétitions. Les défilés de samedi seront un test de l'état d'esprit des Français, un test observé avec attention à l'Élysée où l'on essaye de conjurer cette fronde pacifiste que l'on assimile volontiers à une dérive munichoise.
Il semble beaucoup plus difficile de terminer une guerre que de la commencer. La fin des hostilités approche et on attend un signe annonçant le cessez-le-feu. Premier pas vers un horizon de paix.
Dès maintenant, progressivement, selon l'éloignement, le bruit des canons va s'éteindre. Dernières images des hostilités qui aujourd'hui sont terminées au Nord-Vietnam.
Cet assaut a eu lieu vers 17h, et nous avons été immédiatement submergés.
Le 17 septembre 1954, le général Christian de Castres raconte la chute de Dien Bien Phu.
Et les bataillons qui convergeaient vers le centre du dispositif, c'est-à-dire vers les batteries, vers les positions de batterie encore en action, et vers mon PC, se sont rejoints vers 17h30, et les deux bataillons différents sont entrés par les deux portes de mon PC. Nous avons été faits prisonniers à ce moment, moi personnellement, par le commandant d'un des bataillons.
Qui est entré, qui s'est manifesté à vous, comment ?
Il s'est manifesté en tant que commandant du bataillon. Il avait une mitraillette sous le bras et, mon Dieu, a été correct.
Mais il est exact aussi que jamais un drapeau blanc n'a été hissé. Jamais.
Absolument pas. Absolument pas. Aucun drapeau blanc n'a été hissé. Et d'ailleurs, quand je suis sorti de mon PC, encadré par le bataillon qui m'avait fait prisonnier, je n'ai vu aucun drapeau blanc sur aucun des points d'appui qui tenaient encore au moment de l'assaut final.
Par exemple, la guerre d'Indochine commence très largement parce que la France a été écartée au moment des accords de Potsdam de la gestion du désarmement du Japon sur le territoire indochinois, puisque c'était les Chinois au nord qui désarmaient les Japonais et les Britanniques au sud. Et nous avons voulu récupérer ce qu'on pensait nous appartenir. Et donc, les combats ont commencé tout de suite.
Pierre Grosseur.
Et pour les Vietnamiens, par exemple, la Deuxième Guerre mondiale, d'une certaine façon, et l'épisode de guerre ne termine qu'en 1975, avec le Vietnam uni, indépendant, etc. Donc, le passage de l'état de guerre à l'état de paix est parfois très, très compliqué.
Les actualités françaises, le 5 août 1954.
Les paillotes de Trung Dia, où se sont rencontrés les parlementaires franco-vietnamiens et ceux du Viet Minh, renferment une part de ce secret de demain. Déjà, un accord sur les échanges de prisonniers est intervenu. Le reste dépend de Genève. Le monde attend.
Nous avons été amenés à des emplacements qui étaient ceux des unités mises au repos après les attaques. Nous sommes restés une huitaine de jours. Et c'est de là que nous sommes partis, en camion, pour la zone des camps définitifs. Nous avons eu cependant un assez long trajet à faire à pied, parce que les routes sont coupées et surtout elles n'existent pas. Mais nous avons souvent pensé à ceux de nos camarades qui, moins bien partagés que nous, ont fait toute la route à pied depuis Dien Bien Phu jusqu'à cette zone.
Quand avez-vous appris la signature du cessez-le-feu ? Au moment même ou après ?
Nous n'avons appris la signature du cessez-le-feu que d'une façon détournée, car on nous a d'abord parlé, à moi en tout cas, on m'a toujours parlé d'une cessation du feu, mais qui n'impliquait pas un accord d'armistice. Et cet armistice ne nous a été signifié qu'une dizaine de jours après sa signature.
Je vais vous poser une question, mon général, qui est indiscrète en elle-même, mais enfin elle l'est qu'à demi, puisque si vous la trouvez trop indiscrète, vous n'y répondrez pas. Lorsque vous avez appris la signature du cessez-le-feu, est-ce que vous en avez éprouvé une satisfaction? Est-ce que vous considériez ce cessez-le-feu comme utile, comme nécessaire et même comme indispensable?
J'ai éprouvé un sentiment de soulagement dans lequel n'entrait que pour une petite part le fait que ma libération était au bout de cet armistice, mais c'était la seule solution possible et qui était entrevue depuis longtemps. Simplement, elle n'était pas encore arrivée à sa maturité. Mais en tant que militaire, je dois dire que je ne pouvais entrevoir depuis déjà quelques années une décision par les armes.
Cependant, en Indochine, dans la région du Delta, les accords du cessez-le-feu ont ramené le silence et la paix. Les postes militaires restent calmes après tant d'heures d'alerte, et si les ouvrages d'art sont toujours gardés, Hanoï retrouve, après les émotions des dernières semaines, une vie délivrée de crainte. Tous, les catholiques dans leurs églises, les bouddhistes dans leurs pagodes, rendent grâce au ciel de leur avoir rapporté la paix. Cependant, Hanoï pense à l'échéance. Certains, optant pour un Vietnam sans Viet Minh, quittent la ville pour les régions restées sous la tutelle française. 7 ans de guerre se terminent, 7 ans qui laissent des blessures et des deuils.
Depuis midi, l'ordre de cesser le feu a donc été donné aux forces armées en Algérie.
Interactualité, le 19 mars 1962.
Nos correspondants, nos envoyés spéciaux vont dans quelques instants nous permettre de suivre l'évolution de cette situation à propos de laquelle on se pose tant de questions. Et d'abord, celle-ci, que va-t-il se passer maintenant en Algérie? Car c'est bien de cette interrogation inquiète que tout va dépendre, tout ce qui peut être sauvé, la coopération, cette réalité qui est celle du travail accompli, de cette œuvre immense réalisée depuis 130 ans et qui fait que l'Algérie a besoin de la France et la France de l'Algérie. Cette réalité qui s'exprime si bien d'ailleurs dans le beau sourire des deux enfants de l'affiche de la paix, deux petits garçons fraternels, un musulman, un européen. Ces affiches ont été placardées dès cette nuit en Algérie.
En ce premier jour de cessez-le-feu et d'attente, Alger reste la ville des contrastes. Contraste entre le centre de la ville et Bab El Oued, contraste entre Bab El Oued et les quartiers musulmans. Le centre de la ville est cet après-midi calme, vide, désert et comme mort. Sur les trottoirs, jonchés par les morceaux des affiches apposées hier soir, représentant un enfant européen et un enfant musulman, et qui ont été lacérés, personne ne marche. Pratiquement ne circulent que les patrouilles et les voitures des journalistes. Les volets de tous les immeubles sont clos. Ce que pensent les Algérois derrière ces volets clos, on s'en doute, mais ils ne le disent pas. Ils sont repliés sur eux-mêmes, comme ceux qui supportent une trop grande douleur et pour lesquels les mots ne veulent plus rien dire. Les Algérois du centre semblent insensibles à tout. Ceux de Bab El Oued, par contre, sont durs. Eux aussi se sont pliés sur eux-mêmes, derrière les fils de fer barbelés, les chicanes, les barrages qui encerclent le quartier. À Bab El Oued, le silence n'est pas seulement impressionnant, il est aussi inquiétant. Dans les quartiers musulmans, par contre, si ça n'est pas l'exubérance que l'on a connue à une autre période, s'il n'y a pas de drapeau FLN, pas de youyou, on parle. Avec Jean Villa et René Rosset de la télévision, nous sommes montés au cœur de la Casbah, marché Randon, rue Maringo. La foule grouillante, qui ne travaille pas aujourd'hui, est canalisée, parfois avec vigueur, par les responsables FLN. Ici, c'est un jour de fête.
Bon, dites-moi, la Casbah est très calme. C'est une consigne, c'est voulu.
La Casbah est très calme, c'est tout à fait logique, car nous avons bien entendu, nos gouvernants, le GPRA, car monsieur, vous savez, le président, monsieur Ben Khedda, avait lancé un appel automatiquement au calme, et puis la population, elle doit automatiquement suivre les conseils, et ils n'ont pas le choix.
Voilà ce que disent les musulmans. Face à cela, les Européens, eux, je vous l'ai dit, se taisent. Pourtant, l'un d'eux, dans ma voiture, a bien voulu parler quelques secondes.
Que pensez-vous qu'il va se passer maintenant?
C'est difficile à dire, parce que, pour autant qu'on sache, le gouvernement français est optimiste, dans le cessez-le-feu, le FLN est optimiste, l'OAS est optimiste, et au milieu de tout ça, on est en train de mourir écrasé sous cet optimisme. Alors, comment voulez-vous qu'on sache? Je ne vois pas, à première vue, ce qui pourrait faire changer quoi que ce soit à la situation actuelle.
Vous pensez que ce sera vraiment la fin des combats, enfin la paix?
Oh, sûrement pas. Parce que la paix, en somme, il aurait fallu la faire entre le FLN et l'OAS. Mais elle est faite entre des gens qui ne se battent pratiquement plus. C'est ce que je vous disais, on peut faire la paix entre deux groupes qui ne se battent pas ou qui n'ont rien de commun. Et c'est comme si on faisait actuellement la paix entre les protestants et les catholiques qui ne se battent plus depuis 400 ans.
Donc pour vous, le problème reste entier?
Le problème est entier. Seulement, la question, c'est de savoir maintenant comment il va se dérouler, quel cheminement ça va prendre, l'affaire va prendre. On n'en sait rien, ça, au juste.
Voilà. Voilà Alger en ce premier jour du cessez-le-feu. Et derrière ces contrastes, derrière ces arguments opposés, une question reste posée. Demain.
Novembre 2020.
La colère, la rage de se sentir trahi par son propre gouvernement. À peine le cessez-le-feu signé, des centaines d'Arméniens envahissent le Parlement, jettent les drapeaux à terre.
Ayez du respect pour nos soldats!
Une députée tente de les raisonner.
Silence! Silence! S'il vous plaît, écoutez-moi.
En vain. Pour eux, ce cessez-le-feu n'est autre qu'une capitulation.
Si un dirigeant, Nicole Pachignan ou un autre crétin, a décidé que tout était fini, il se trompe profondément et le monde entier se trompe.
Cette nuit, Vladimir Poutine arbitre et annonce la fin du conflit entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie dans le Haut-Karabakh, cette enclave peuplée d'Arméniens, autoproclamée indépendante en 1991. Fin septembre, l'Azerbaïdjan a lancé une offensive militaire et conquis une partie du territoire. Le cessez-le-feu fige ses positions. L'Arménie devra également abandonner ses zones tampons. Avec cet accord, le Haut-Karabakh perd la moitié de sa superficie et se retrouve quasiment isolé. Une défaite militaire signée par le premier ministre arménien qui se justifie.
J'ai pris cette décision parce qu'il n'y a pas d'alternative. L'armée a dit qu'il fallait arrêter. Il y a des problèmes. Les ressources sont épuisées. Il n'y a pas de solution.
De l'autre côté de la frontière en Azerbaïdjan, l'euphorie de la victoire.
Je suis très heureux. Félicitations à la patrie. J'espère que ces terres seront les nôtres pour toujours.
2000 militaires et blindés russes se dirigent vers le Haut-Karabakh pour maintenir la paix et créer un corridor afin de relier cette enclave à l'Arménie.
Les cessez-le-feu, c'est quelque chose qui est extrêmement provisoire. Je crois que le terme est quand même très clair, c'est qu'on arrête de se tirer le dessus. Mais c'est tout le problème de ces cessez-le-feu, c'est qu'il y a toujours des violations de cessez-le-feu. La plupart du temps, avant l'armistice, il y a des violations de cessez-le-feu, avec évidemment chacun accusant l'autre d'avoir profité finalement de la situation pour avancer un petit peu plus sur le terrain, pour être dans une meilleure position au moment de l'armistice. C'est pour ça que le terme de cessez-le-feu, c'est souvent un moment qu'on a parfois du mal à accepter de signer un cessez-le-feu sur le terrain, parce qu'on pense que l'autre va en profiter pour se refaire une santé, pour amener des renforts, etc. Et la négociation donc technique des cessez-le-feu est donc extrêmement compliquée. Et c'est pour ça que la plupart du temps, dans les accords d'armistice, donc au-delà du cessez-le-feu, l'armistice qui est normalement un cessez-le-feu général et durable, vous avez des pratiques, notamment pour la Corée, pour l'Indochine 53-54, c'était vraiment le moment où ça a été lancé, de ce qu'on appelle des commissions internationales de contrôle, où en général, vous aviez, c'était l'époque de la guerre froide, un pays communiste, un pays anticommuniste pour aller vite et un neutre. En général, c'était l'Inde à l'époque, évidemment, qui était considéré comme neutre, assez favorable aux communistes quand même. Et donc, voilà, cette commission de contrôle veillait à ce qu'il n'y ait pas de violation des clauses de l'armistice, de reprise des combats, etc. Voilà. Parce que là encore, hein, je veux dire, c'est tant qu'il n'y a pas d'accord de paix, il peut y avoir encore des combats. Et parfois, même après les accords de paix, il peut y avoir des accrochages, il peut y avoir des problèmes.
Une route déserte, écrasée par la chaleur. Un poste frontière fantôme où pas un seul réfugié n'ose s'approcher. Une équipe de médecins du monde qui surveille le vide, mais ce calme est trompeur.
France Info, le 11 juin 1999. Guerre du Kosovo.
Dans la montagne en face, au-dessus du lac Vert, les sons de la guerre sont toujours présents. Les obus pleuvent, les détonations de Kalachnikov résonnent. Des hommes sont en train de combattre et de mourir alors que la paix est proclamée. Le paradoxe est saisissant, la situation grotesque. La région de Has, théâtre des opérations guerrières, est en retard sur l'actualité. Ici, des combattants, par fierté, ne veulent pas déposer les armes. L'UCK et les Serbes font durer le plaisir. Un baroud d'honneur sinistre, tout près d'un cimetière en pleine campagne où la terre est encore fraîche. Morina, Laurent Goria, France Info.
Vous savez, lorsque dans un conflit comme celui-ci, les deux forces sont en présence, nous sommes dans un état de cessez-le-feu. Pour que ce cessez-le-feu puisse être maintenu, il faut placer entre les deux forces une autre force neutre. Cette force neutre doit avoir des armes parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Il peut y avoir des cas d'unités absolument incontrôlables ou qui se trompent, qui prennent à partie les casques bleus. Ces gens-là doivent être armés pour pouvoir riposter, se défendre.
Au RTF, le 3 janvier 1974, un casque bleu au nord du Sinaï.
Nous sommes un corps d'officiers, 50% d'officiers supérieurs. Nous avons un certain entraînement, une certaine expérience de la guerre. Notre rôle, on dit que c'est d'observer, mais en fait, n'est-ce pas simplement d'observer. Nous avons un rôle très actif lorsque, par exemple, les adversaires s'affrontent. Nous intervenons pour établir les cessez-le-feu. Par exemple, pendant la guerre d'usure de 68, 69, 70, nos interventions ont été très fréquentes.
Oui. Vous étiez là, d'ailleurs.
J'étais ici, bien sûr. Et je crois que nous avons servi, nous avons été utiles. Nous avons certainement sauvé des centaines de vies humaines, parce que à cette époque-là, la guerre d'usure, les tirs d'artillerie, l'aviation étaient très intenses.
Pour vous, mon commandant, que vous soyez de ce côté-ci du canal ou de l'autre côté, c'est la même chose?
Ah ben évidemment, nous servons de la même façon. Mes camarades sont de l'autre côté du canal, je suis de ce côté-ci. Il n'y a absolument aucune différence.
Le 11 novembre 1968, des poilus se remémorent l'armistice de 1918 à l'occasion de son cinquantenaire.
On nous a annoncé à ce moment-là qu'il y avait les pourparlers et que ça allait cesser. Et tout à coup, nous avons été prévenus que les plénipotentiaires venaient de passer à 700-800 mètres sur notre droite. Alors nous avons commencé tous à respirer et puis à faire attention et dire « c'est pas le moment de se faire bousiller ». Parce que c'est la fin, certainement, c'est pas le moment de laisser sa peau.
Vers 9h30, le téléphone fonctionnant, le caporal téléphonique Guillermin avait reçu un appel. Nous l'entendions qui disait « Allô, allô, mais qu'est-ce que vous dites? Mais je n'entends pas. J'entends bien 11h, mais 11h, qu'est-ce que c'est que ça? Il y a un mot que je ne comprends pas. Expliquez-moi donc, qu'est-ce que c'est que ça ?» Alors, le capitaine Le Breton, lui, qui était tout de même au courant des pourparlers, a compris, il a dit « Ah, 11h, bon, c'est entendu !»
Contrairement à ce qu'on peut penser, il n'y a eu aucune explosion de joie ni manifestation extérieure. On ne se rendait pas compte que d'un seul coup, le drame qui durait depuis 52 mois allait s'arrêter pile. Déjà, comme l'a dit Gazaret, le téléphoniste Guillermin, avec son appareil, on lui parlait d'armistice, il disait « La quoi ?» La quoi ? C'est alors que le Breton, excédé, lui arrache le téléphone des mains, dit juste ce que ça veut dire. Il dit « Bon, ça va bien, c'est signé ». Et le Breton, qui était un garçon très renfermé, s'est tourné vers nous, les trois officiers, et nous dit « Ça sera fini à 11h ». Pensez bien à tous les poilus qui nous regardaient, les agents de liaison, les coureurs, les téléphonistes, il y avait quelques brancardiers, il y avait quelques musiciens, il y avait quelques radios. Tout le monde s'est regardé. Le premier signe, le premier geste de tous les gens a été regardé la montre-bracelet. Plus qu'une heure et demie, il ne faut pas faire le zouave. Le colonel communique. Le maréchal Foch télégraphie ce qui suit. Hostilités cesseront ce matin à 11h. Prendre disposition en conséquence. Note du colonel. À 11h, très précise, les clairons sonneront le garde-à-vous, le cessez-le-feu et au drapeau. Note du colonel commandant l'infanterie divisionnaire, à cette heure, les hommes sortiront de leur trou et agiteront leurs fusils auxquels ils auront attaché leur mouchoir blanc. Mouchoir blanc. Nous étions dans ce trou d'obus, nous regardant les uns les autres, regardant nos bracelets et montres, comptant presque les minutes. Le compte à rebours, pourrait-on dire. Vers 11h20, le capitaine Le Breton se tourna vers moi et me dit « Mais ce n'est pas tout ça. Avons-nous un clairon ?» Ah, la belle question. Il fallait trouver un clairon. Or, mon fidèle Gazaret, qui était non loin de moi, me dit « Moi, j'en ai vu un qui est dans un trou pas loin d'ici. » Alors le Breton dit « Qu'il aille le chercher. » Alors Gazaret, évidemment, s'est mis à ramper et au bout de 7-8 minutes, est revenu avec un clairon, le clairon de la Luc. Et le Breton lui dit ceci « Clairon, vous allez sonner le cessez-le-feu. » Tête ébahie. De la lutte, qui se demande qu'est-ce qui lui tombe sur la tête. Cessez-le-feu. Je me souviens plus comment c'est, car je l'ai pas joué depuis le début de la guerre. Alors il répète dans sa tête, ta 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 ta. Bon. Et le capitaine Le Breton regardait toujours sa montre bracelet. C'est encore 3 minutes. Encore 2 minutes. Et alors, tout d'un coup, je lui dis, « Capitaine, il est 11h. » Il dit « Laissez passer quelques secondes, vaut mieux tirer après qu'avant, mais il y a peut-être un type qui va être tué. » Et à 10h56, des obus passaient au-dessus de nos têtes pour démolir des maisons dans Dont-le-Mesnil. Et les mitraillettes tiraient encore. Alors Delaluc, il sortit sa tête et son clairon rasant presque le sol, parce qu'il n'était pas très rassuré, et nous non plus. Il a joué le refrain du régiment, qui n'était pas prévu au programme. Le refrain du régiment, suivi du garde-à-vous, le cessez-le-feu et au drapeau. Et aussitôt, sortant un peu plus du bus, il s'est tourné en face, vers le nord, vers la côte 259, et a rejoué les mêmes airs. Puis, s'enhardissant, il s'est tourné à droite, vers l'est, vers Nouvion, et à jouer les notes demandées par le commandement. Un deuxième clairon chez nous, beaucoup plus en arrière, a répété les mêmes notes. Et en même temps, lorsque les sonneries de chez nous furent finies, nous entendîmes, en face, le cessez-le-feu allemand. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. En même temps qu'un brouhaha qu'on ne pouvait pas distinguer. Comme des gens chantant mal en cœur comme une manifestation, mais sans plus. Puis, les choses s'arrêtèrent là pour l'instant.
Et la paix vient d'arriver brusquement, comme une rafale. Comme la fortune échoit à un homme pauvre et usé, la paix, un lit, des repas, des nuits calmes, des projets que nous n'avions pas eu le temps encore de former, la paix, ce silence qui est retombé sur les lignes, qui emplit le ciel, qui s'étend sur toute la terre, ce grand silence d'enterrement. Je pense aux autres, à ceux d'Artois, des Vosges, de l'Aisne, de Champagne, de notre âge, dont nous ne saurions déjà plus dire les noms. Un soldat, en passant, me jette. Ça fait tout drôle. Nous ne sommes pas habitués encore à ne plus avoir peur.
Merci à Nicolas Offenstadt et Pierre Grosser. Lecture, Olivier Martineau et Johanna Bedeau. Prise de son, Thibaut Nassim Ben et Bruno Mourlan. Mixage, Manon Houssin. Documentation, Annelise Signoret. Archivina, Véronique Jolivet. Attachée de production, Marivonne Abolivier et Anaï Morales. Coordination, Perrine Carvran. LSD, hisser les drapeaux blancs, comment faire la paix. Premier épisode, vers le cessez-le-feu. Un documentaire de Marie Chartron, réalisé par Franck Lilin.